Chapitre 9. Finbay. Dans la tradition des six duchés, le grêlé annonce les désastres. Quand on le voit marchant à grands pas sur la route, on sait que la maladie et la pestilence ne tarderont pas, et rêver de lui avertirait, dit-on, d'une mort prochaine. Souvent, les contes le montrent apparaissant à ceux qui méritent une punition. Mais il sert parfois, la plupart du temps, dans les spectacles de marionnettes, de symboles diffus, d'une catastrophe à venir. Le pantin du grêlé suspendu au-dessus du décor prévient le public qu'il va assister à une tragédie. Les journées d'hiver passaient avec une lenteur effrayante. À toute heure, je m'attendais à un malheur. Je n'entrais pas dans une pièce sans l'avoir préalablement examinée. Je ne mangeais rien que je n'eusse vu préparer. Je ne buvais que l'eau que j'avais moi-même tirée du puits, et je dormais mal. Cette vigilance de tous les instants jouait sur mon comportement de 100 façons différentes. J'étais cassant avec ceux qui me parlaient de la pluie et du beau temps, ombrageux quand je rendais visite à Burick, réticent avec la reine. Imbre, le seul à qui j'aurais pu m'ouvrir de mon fardeau, ne m'appelait pas. Je me sentais seul à en pleurer. Je n'osais plus me rendre chez Molly. J'écourtais autant que je le pouvais mes visites à Burick, de peur de lui attirer des ennuis. Je ne pouvais même plus sortir ouvertement du château pour passer quelques heures en compagnie d'œil de nuit. Et je préférais m'abstenir d'emprunter notre issue secrète au cas où j'eusse été surveillé. J'étais constamment aux aguets, l'oreille tendue, et le fait que rien ne se produisît faisait de mon attente une torture raffinée. J'allais tout de même voir le roi subtil tous les jours, et le voyais dépérir petit à petit, le fou devenir plus morose, son humour s'aigrir. J'appelais de mes vœux une violente tempête d'hiver qui s'harmoniserait à mon humeur, mais le ciel demeurait bleu et le vent calme. Les murs de Castelserre retentissaient du charivari des réjouissances. Des bals étaient organisés, et des concours où les ménestrels rivalisaient pour remporter quelques bourses replètes. Les ducs et les nobles, de l'intérieur, se régalaient à la table de royal et buvaient en sa compagnie jusque tard dans la nuit. « On dirait des tiques sur un chien en train de crever !» m'exclamai-je violemment, un jour que je changeais le pansement de Burick. Il venait d'observer qu'il n'avait guère de mal à rester éveillé, la nuit, devant la porte de Kétriken, car le tintamarre des fêtes lui aurait de toute manière interdit de fermer l'œil. « Qui est en train de crever ? » demanda-t-il. « Nous tous, jour après jour, nous crevons tous. Personne ne te l'a jamais appris. Mais ta jambe guérit, elle, est sacrément bien, vu ce que tu lui as fait subir. » Il baissa les yeux sur sa jambe nue et la plia précautionneusement. Le tissu cicatriciel se tendit, mais tint bon. « C'est peut-être fermé en surface, mais je sens que ce n'est pas guéri à l'intérieur, » fit-il, et ce n'était pas une plainte. Il prit sa coupe d'eau-de-vie et la vida, et je lui lançai un coup d'œil acéré. Ses journées s'étaient coulées dans une routine bien ancrée. Quand il quittait la porte de Kétriken le matin, il descendait manger aux cuisines, puis remontait dans sa chambre et commençait à boire. Après mon passage pour l'aider à changer son pansement, il continuait à boire jusqu'à ce qu'il fût l'heure pour lui de dormir. Puis il se réveillait le soir, juste à temps pour dîner et reprendre sa place devant les appartements de Kétriken. Il n'intervenait plus dans les écuries. Il en avait confié l'entière responsabilité à Pogne, qui s'en occupait désormais, avec l'air d'être victime d'une punition imméritée. Tous les deux jours à peu près, Patience envoyait Molly faire le ménage chez Burick. J'avais peu d'écho de ces visites, sinon qu'elles avaient lieu et que Burick, à mon grand étonnement, les tolérait. Quant à moi, elles m'inspiraient des sentiments mitigés. Même quand il buvait beaucoup, Burick traitait toujours les femmes avec délicatesse. Cependant, les alignements de bouteilles vides ne pouvaient manquer de rappeler son père à Molly. Pourtant, je souhaitais qu'ils se connaissent mieux tous les deux. Un jour, je racontai à Burick que Molly avait reçu des menaces à cause de ses fréquentations.
« Ses fréquentations ?»
répéta-t-il en me lançant un regard perçant. Quelques personnes savent que je m'intéresse à elle, fis-je avec circonspection. Un homme ne fait pas partager ses ennuis à la femme qu'il aime, me dit-il d'un ton sévère. Comme je n'avais rien à répondre à cela, je lui fournis les détails que Molly s'était rappelé de ses agresseurs, mais ils ne lui évoquèrent rien. Un moment, il demeura le regard lointain, puis il prit sa coupe et la but. « Je vais lui dire, » déclara-t-il en articulant soigneusement, « que tu t'inquiètes pour elle. Je vais lui dire que, si elle se croit en danger, elle doit venir me trouver. Je suis davantage en position que toi de m'en occuper. » Il croisa mon regard. « Je vais lui dire que tu as raison de te tenir à l'écart d'elle pour son bien. » Et comme il se versait à nouveau à boire, il ajouta doucement. « Patience ne s'est pas trompée, et elle a bien fait de me l'envoyer. » Je blêmis en songeant à toutes les implications de cette déclaration, mais pour une fois, j'eus le bon sens de me taire. Il but son eau de vie, puis considéra la bouteille. Enfin, lentement, il la poussa vers moi. « Range-moi ça sur l'étagère, tu veux ?» me demanda-t-il. Castelcerf continua de se vider de ses réserves d'hiver et de ses animaux. Certains furent vendus à bas prix au duché de l'intérieur. Les meilleurs chevaux de chasse et de monte partirent sur la serre à bord de chalands pour une région près de Turlac, ce que Royal décrivit comme un plan pour mettre nos reproducteurs à l'abri des ravages des pirates rouges. À bord de Castelcerf, d'après Pogne, on murmurait que, si le roi était incapable de préserver son propre château, quel espoir y avait-il pour les petites gens? Et quand toute une cargaison de somptueuses tapisseries et de beaux meubles anciens partit vers l'amont du fleuve, on se mit à chuchoter que les loin-voyants allaient bientôt abandonner Castelcerf sans même un combat, sans même attendre une attaque, et j'eus le désagréable soupçon que cette rumeur était fondée. Confiné à Castelcerf, je ne savais guère ce dont parlaient les gens du commun. Le silence m'accueillait à présent quand j'entrais dans le corps de garde. Mon assignation au château avait donné naissance à maints ragots et spéculations, et les on-dit qui avaient couru sur moi après que j'eusse échoué à sauver la petite fille des griffes des forts gisés connurent une seconde jeunesse. Rares étaient les gardes qui m'entretenaient d'autre chose que du temps et de banalités du même genre. Sans être devenu un véritable paria, je me vis exclu des conversations détendues et des discussions à bâtons rompus qui allaient d'habitude bon train dans le corps de garde. M'adresser la parole portait désormais malheur, et je ne souhaitais pas affliger ces hommes et ces femmes à qui je tenais. Je restais le bienvenu aux écuries, mais je m'efforçais de ne pas trop parler à quiconque et de ne pas marquer d'affection particulière à tel ou tel animal. Les ouvriers étaient moroses en ces jours, car il n'y avait guère de travail pour les occuper, et les querelles étaient fréquentes. Cependant, ils constituaient ma source principale d'informations et de rumeurs. Aucune n'était réjouissante. J'entendais parler d'attaques contre les villes béarnoises, de bagarres dans les tavernes et sur les quais de bourg de Castelcerf, de gens qui déménageaient pour le sud ou l'intérieur, selon leurs moyens. Le peu que j'entendis sur Vérité et son entreprise était railleur et méprisant. L'espoir était mort. Comme moi, les habitants du bourg attendaient, rongés d'angoisse, que le désastre arrive à leur porte. Nous connûmes un mois de tempête, mais le soulagement et les fêtes que ce temps occasionna à bourg de Castelcerf se révélèrent plus destructeurs que la période de tension qui les avait précédés. Une taverne du front de mer prit feu au cours de bacchanal particulièrement échevelé. L'incendie s'étendit, et seules les trombes d'eau qui succédèrent au vent déchaîné l'empêchèrent de gagner les entrepôts. C'eût été une catastrophe à plus d'un titre, car à mesure que Royal vidait les magasins de Castelcerf de leurs grains et de leurs vivres, les gens de la ville voyaient de moins en moins de raisons de préserver ce qui restait. Même si les pirates ne s'en prenaient jamais à Castelcerf proprement dit, j'étais résigné d'avance à un rationnement de la nourriture avant la fin de l'hiver. Une nuit, je m'éveillais dans un silence de mort. Les hurlements de la tempête et la mitraille de la pluie avaient cessé. Mon cœur se serra. une terrible prémonition m'envahit. Et lorsqu'à mon lever, je vis un ciel limpide, mon angoisse s'aggrava encore. À plusieurs reprises, je sentis un toucher d'arme picoter les sens, ce qui faillit me rendre enragé, car j'ignorais si cela provenait de Vérité, qui essayait de me contacter, ou de Justin et Sereine, qui tentaient de m'espionner. La visite que je rendis au roi en fin d'après-midi ne fit qu'accroître mon abattement. Amaigri au point de n'avoir plus que la peau sur les os, il était assis dans son lit, un vague sourire sur les lèvres. Il m'artisa faiblement quand je franchis la porte, puis m'accueillit ainsi.
« Ah, Vérité, mon garçon, comment s'est passée ta leçon d'escrime aujourd'hui ?»
Et le reste de sa conversation fut à l'avenant. Royal fit son apparition presque tout de suite après mon arrivée. Il prit place sur un siège à dos droit, les bras croisés, et il m'observa. Nous n'échangeâmes pas un seul mot, et je fus incapable de savoir si mon silence relevait de la lâcheté ou de la maîtrise de moi-même. Je m'esquivais aussi vite que la décence m'y autorisait malgré le regard de reproche que m'adressa le fou. Ce dernier n'avait guère meilleure mine que le roi. Sur quelqu'un d'aussi pâle que lui, les cernes noires de ses yeux semblaient peints à même la peau. Sa langue était aussi immobile que le battant de ses grelots. À la mort du roi subtil, plus rien ne se dresserait entre le fou et Royal. Je me demandais si je pourrais l'aider par quelque moyen.
Comme si j'étais capable de m'aider moi-même, me dis-je amèrement.
Ce soir-là, dans la solitude de ma chambre, je bus plus que de raison de cette eau-de-vie de mur que Burick méprisait. Je savais que je serais malade le matin venu, mais je n'en avais cure. Je m'allongeais sur mon lit et prêtais l'oreille au son étouffé de la fête qui montait de la grande salle. J'aurais voulu que Molly soit là, pour me réprimander d'être ivre. Le lit était trop grand, les draps blancs et froids comme des glaciers. Je fermais les yeux et cherchais le réconfort de la compagnie d'un loup. Enfermé dans le château, j'avais pris l'habitude de le retrouver toutes les nuits dans mes rêves, afin de me donner l'illusion de la liberté. Je me réveillais juste avant qu'Imbre me secoue l'épaule. Heureusement que je l'avais reconnu en ce bref instant, sans quoi j'eusse sûrement essayé de le tuer.
« Debout !» me souffla-t-il d'une voix rauque. « Lève-toi, espèce d'idiot, abruti !»« Finbet assiégé, 5 pirates rouges. Ils ne laisseront pas pierre sur pierre si nous tardons trop. Allons, lève-toi donc, sacrebleu !»
Je me redressai tant bien que mal. La brume de l'alcool dissipée par le choc causé par ses propos.
« Que pouvons-nous faire ?» demandai-je stupidement.
« Avertir le roi ! Avertir Kétriken ! Royal, même Royal, ne peut pas faire la sourde oreille. Ça se passe à nos portes. Si les pirates rouges s'emparent de Finbet, nous sommes coincés. Plus aucun bateau ne pourra sortir de Port de Serre. Même Royal doit s'en rendre compte. Va, maintenant, va !»
J'enfilai des chausses et une tunique, puis pieds nus, les cheveux dans les yeux. Je me précipitai vers la porte, où je m'arrêtai soudain. « Mais comment suis-je au courant? D'où dois-je dire que me vient cet avertissement ?» D'exaspération, Imbre se mit à sautiller sur place.
« Zut, zut! Dis n'importe quoi! Raconte à Subtil que tu as fait un rêve où le grêlé voyait ce qui allait se passer dans un bassin. Il devrait comprendre, lui. Dis que c'est un ancien qui t'a prévenu. Dis ce que tu veux, mais qu'ils agissent tout de suite !»«
D'accord. » Je fonçai dans le couloir. Descendis les escaliers 4 à 4 et me ruai jusqu'à la porte du roi, à laquelle je frappai à coups redoublés. À l'extrémité du couloir, Burick se tenait debout à côté de sa chaise, devant les appartements de Kétriken. Il se tourna vers moi, dégaina son épée courte et s'apprêta au combat, en jetant des coups d'œil tout autour de lui.
« Les pirates !»
criai-je sans me soucier de qui pouvait m'entendre.
5 navires pirates à Finbet. Réveille sa majesté. Dis-lui qu'on a besoin de son aide. »
Sans poser de questions, Burick frappa chez la reine et la porte s'ouvrit aussitôt. Pour ma part, je rencontrai davantage de difficultés. Murfès finit par entrebâiller le battant, mais refusa de me laisser entrer, jusqu'au moment où je lui suggérais d'aller rapidement informer Royal des nouvelles que j'apportais.
La perspective de faire une entrée théâtrale et de conférer avec le prince devant tous les fêtards rassemblés dut le décider, car, laissant la porte sans surveillance, il alla aussitôt dans sa petite antichambre se rendre présentable. La chambre du roi, plongée dans l'obscurité, baignait dans l'odeur suffocante de la fumée. Je me munis d'une bougie dans le salon, l'allumai au feu mourant et entrai en hâte. C'est alors que je faillis marcher sur le fou, couché en rond comme un vulgaire roquet au chevet du roi. J'en restais bouche bée, sans même une couverture ni un coussin. Il dormait recroquevillé sur la descente de lit de Subtil. Il se déplia avec des mouvements raides, puis, éveillé, il prit aussitôt l'air alarmé.
« Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il »
demanda-t-il d'une voix inquiète. « Il y a des pirates à Fine Bay, 5 navires. Il faut que je prévienne le roi. Mais que fais-tu à dormir ici ? Tu as peur de retourner dans ta chambre ?» Il éclata d'un rire amer.
« Dis plutôt que je crains de quitter celle-ci, de peur de n'y plus jamais y avoir accès. La dernière fois que Murfès m'a enfermé dehors, j'ai dû hurler et tambouriner à la porte pendant 1 heure avant que le roi s'aperçoive de mon absence et exige de savoir où j'étais. La fois précédente, j'ai réussi à me faufiler en même temps que le petit déjeuner, et la fois d'avant... »
« On cherche à te couper du roi ?» Il acquiesça.
« Par le miel ou le fouet ?» Hier soir, Royal m'a offert une bourse de 5 pièces d'or pour me pomponner et descendre divertir son monde. Ah, après ton départ, il s'est longuement épanché. Je manquais cruellement à la cour, et quel dommage, c'était de me voir perdre ma jeunesse enfermée ici. Quand je lui ai répondu que je trouvais la compagnie du roi Subtil plus agréable que celle d'autres fous, il m'a jeté la théière à la tête, ce qui a proprement mis Murfès en rage, car il venait d'y concocter un mélange d'herbes si répugnant qu'on en serait venu à regretter le parfum des paix. »
Tout en parlant, le fou avait allumé des bougies et attisé le feu. Il tira l'une des lourdes tentures sur le lit royal.
« Mon suzerain, »
fit-il du ton dont on s'adresse à un enfant endormi,
« Fitz-chevalerie vient vous apporter d'importantes nouvelles. « Voulez-vous vous éveiller pour les écouter ?»
Tout d'abord, le roi ne réagit pas.
« Votre Majesté !»
dit le fou. Il humecta un tissu d'un peu d'eau fraîche et en bassina le visage du roi.
« Roi Subtil !»«
Mon roi, votre peuple a besoin de vous !» Les mots s'échappèrent de ma bouche sous le coup du désespoir. « Fine Bay est assiégée par 5 pirates rouges. Il faut envoyer des secours sans tarder, sans quoi tout est perdu, une fois qu'ils auront pris pied là-bas. »«
Ils pourront fermer Port de Serre. »
Le roi ouvrit les yeux, puis, sans changer de position, il les referma, les paupières plissées comme sous l'effet de la douleur.
« Fou, un peu de vin rouge, s'il te plaît. »
Sa voix était faible, guère plus qu'un souffle, mais c'était celle de mon roi. Mon cœur bondit comme celui d'un vieux chien qui entend son maître rentrer. « Que faut-il faire ? » demandai-je d'un ton implorant.
« Leur envoyer tous nos navires, pas seulement les bateaux de combat, mais aussi la flotte de pêche. C'est pour notre vie que nous nous battons maintenant. Mais comment osent-ils s'approcher autant ? Comment une telle audace leur est-elle venue ? Qu'on dépêche aussi des chevaux par voie de terre, qu'ils se mettent en route cette nuit, sur l'heure. Ils n'arriveront peut-être qu'après-demain, mais qu'ils partent tout de même. Que personne s'en charge. »
Mon cœur fit un saut périlleux dans ma poitrine. « Votre Majesté, » fis-je doucement, « personne est mort en revenant des montagnes avec Burick. Des bandits les ont attaqués. » Le fou me lança un coup d'œil furieux, et je regrettai aussitôt mon intervention. Toute autorité disparut de la voix de Subtil. D'un ton hésitant, il dit
« Persan est mort ?»
Je repris mon souffle. « Oui, votre majesté, mais il reste roux, et Kerf est un homme de valeur. » Le roi prit la coupe des mains du fou, but une gorgée de son contenu, et sembla épuiser des forces.
« Kerf, que Kerf s'en occupe alors ?»
Un soupçon d'assurance revint dans son maintien. Je me mordis la langue pour ne pas lui révéler que les quelques chevaux restants aux écuries ne valaient pas qu'on les expédie. Sans nul doute,
les habitants de Finbé accueilleraient à bras ouverts toute aide, quelle qu'elle soit. Le roi subtil réfléchit un instant.
« Quelles nouvelles de baies du sud ? Ont-ils envoyé des guerriers et des navires ?»«
Votre Majesté, nous n'avons aucune nouvelle pour le moment. » Ce n'était pas un mensonge.
« Que se passe-t-il ici ?»
C'était Royal, le visage soufflé d'alcool et de rage, qui avait poussé cette exclamation avant même d'être entré dans la chambre.
« Murfès !»
Il pointa sur moi un index accusateur.
« Fais-le sortir d'ici. Trouve de l'aide si c'est nécessaire, et pas de douceur excessive. »
Murfès n'eut pas à aller bien loin. Deux des gardes de Royal, originaires de l'intérieur, avaient suivi leur maître. Ils me soulevèrent carrément du sol. Royal avait choisi de solides gaillards pour cette tâche. Je cherchais des yeux un allié, le fou, mais il avait disparu. J'aperçus une main pâle qui se retirait sous le lit et détournait résolument le regard. Je ne lui en voulais pas. À s'interposer, il n'aurait obtenu que de se faire jeter dehors lui aussi.
« Mon père, a-t-il dérangé votre repos par ces histoires sans queue ni tête, alors que vous êtes si malade ?»
Il se pencha sur le lit, plein de sollicitude. Les gardes m'avaient presque amené à la porte quand le roi parla. Sa voix n'était pas forte, mais l'autorité y perçait.
« Arrêtez-vous !»
ordonna-t-il aux gardes. Toujours allongé sur son lit, il tourna le visage vers Royal.
« Finbé est assiégé, » dit-il fermement. « Il faut envoyer du secours. »
Royal secoua la tête d'un air navré.
« Ce n'est encore qu'une fredaine du bâtard pour vous bouleverser et vous voler votre sommeil. Nous n'avons reçu aucun appel à l'aide, aucun message d'aucune sorte. »
L'un des gardes me tenait d'une façon toute professionnelle. L'autre semblait vouloir absolument me démettre l'épaule, bien que je me retinsse de me débattre contre lui. Je mémorisais soigneusement ses traits, tout en m'efforçant de ne pas manifester ma douleur.
« Vous n'auriez pas dû vous déranger, Royal. Je découvrirai la vérité ou le mensonge que recouvre cette affaire. »
La reine Kétrikène avait pris le temps de se vêtir d'une veste courte en fourrure blanche, de chausses et de bottes violettes, et de cindre sa longue épée montagnarde. Burik s'encadrait dans le chambranle de la porte, à la main, un manteau de monte à lourd capuchon et des gants. Kétrikène poursuivit du ton dont on s'adresse à un enfant gâté. « Retournez auprès de vos invités. Je pars pour Finbé. »«
Je vous l'interdis !»
La voix de Royal retentit avec une singulière stridence et un profond silence s'abattit dans la pièce. La reine Kétrikène releva ce que chaque personne présente savait déjà. « Un prince n'a rien à interdire à la reine servante. Je pars cette nuit. » Royal devint cramoisi.
C'est un coup monté, un complot du bâtard pour mettre Castelserre sans dessus-dessous et instiller la peur au peuple. Personne ne nous a prévenu d'une attaque contre Finbé.
Silence !
Jeta le roi. Chacun se pétrifia.
Fitz-chevalerie, sacrebleu, mais lâchez-le donc ! Fitz-chevalerie, viens devant moi et rends-moi compte. D'où tiens-tu cette nouvelle ?
Je rajustai mon pourpoint et lissai mes cheveux. Tout en m'approchant de mon souverain, j'avais péniblement conscience de mes pieds nus et de ma coiffure ébouriffée, mais je respirais profondément et chassais ces détails de mon esprit. Pendant mon sommeil, j'ai eu une vision, sire. Une vision du grêlé en train de lire l'avenir dans un bassin plein d'eau. Il m'a montré les pirates rouges à Finbé. Je n'avais osé insister sur aucun des mots que j'avais employés. Je soutins le regard de l'assistance. Un des gardes émit un grognement d'incrédulité. Burik me dévisageait bouche bée, les yeux écarquillés. Kétrikène paraissait simplement perplexe. Sur le lit, le roi subtil ferma les yeux et soupira lentement.
« Il est ivre !» déclara Royal. « Emmenez-le !»
Jamais je n'avais entendu pareille satisfaction dans sa voix. Ses gardes avancèrent vivement pour me saisir.
« Fais !»
Le roi prit une longue inspiration, manifestement en lutte contre la souffrance.
« Comme je l'ai ordonné !»
Il retrouva quelque vigueur.
« Comme je l'ai ordonné. Va, maintenant, tout de suite. »
Je me dégageai de la poigne des gardes abasourdis. « Oui, votre majesté, » répondis-je dans le silence. Je parlais clairement afin d'être entendu de tous. « Vous ordonnez donc qu'on envoie tous les navires de combat à Finbay, ainsi que tous les bateaux de pêche que l'on pourra réunir, et qu'on expédie tous les chevaux disponibles par la terre, sous le commandement de Kerf.
Oui, confirma le roi dans un soupir. Il avala sa salive, inspira, et ouvrit les yeux.
Oui, je l'ordonne. À présent, va.
Un peu de vin, mon suzerain.
Le fou s'était matérialisé de l'autre côté du lit. Je fus le seul à tressaillir à son apparition, ce qui lui fit monter aux lèvres un sourire entendu. Puis il se pencha sur le roi pour lui soulever la tête et l'aider à boire. Je m'inclinai profondément devant mon roi, puis je me redressai et m'apprêtai à quitter la pièce. « Vous pouvez accompagner ma garde si vous le désirez, » me dit Ketriken.
Royal vira au rouge pivoine.
« Le roi ne vous a pas ordonné de partir, » fit-il en postillonnant.
« Pas plus qu'il ne me l'a interdit. »
La reine le regarda bien en face.
« Ma reine !»
Une de ses gardes apparut à la porte. « Nous sommes prêtes à nous mettre en route. » Je regardai la femme, ahurie, mais Ketriken se contenta de hocher la tête. Elle me jeta un coup d'œil. « Vous devriez vous hâter, Fitz, à moins que vous ne comptiez voyager tel que vous êtes vêtu. » Burik déplia le manteau de la reine. « Mon cheval est-il prêt ?» demanda Ketriken à sa garde.
« Vogne a promis qu'il serait aux portes quand vous descendriez. »«
Il ne me faudra qu'un moment pour me préparer, »
fit Burik à mi-voix. Je notai qu'il ne demandait pas la permission de se joindre à l'expédition.
« Alors, allez-y tous les deux. Rattrapez-nous le plus vite possible. »
Burik acquiesça. Il m'accompagna chez moi, où il se munit de vêtements divers tirés de mon coffre pendant que je m'habillais.
« Peigne-toi et lave-toi la figure, »
me dit-il sèchement.
« Les soldats ont davantage confiance dans un homme qui n'a pas l'air étonné de se faire réveiller en pleine nuit. »
Je suivis son conseil, puis nous redescendîmes rapidement. Sa jambe raide paraissait oubliée pour cette nuit. Dans la cour, il se mit à donner à pleine voix des ordres au palefrenier pour qu'il nous amène Suy et Rousseau, puis envoya un garçon terrorisé chercher Kerf et transmettre les ordres royaux. Et un autre, enfin, préparait tous les chevaux disponibles des écuries. Il dépêcha 4 hommes en ville, 1 au mouillage des navires de combat, les 3 autres pour faire la tournée des tavernes et rameuter la flotte. J'enviais son efficacité. Ce n'est qu'une fois à cheval qu'il s'aperçut qu'il avait tout fait à ma place. Il prit l'air soudain gêné, et je lui souris.
« C'est important, l'expérience, »
fis-je.
Nous nous dirigeâmes vers les portes du château.
« On devrait rattraper la reine Ketriken avant qu'elle atteigne la route côtière, »
me disait-il quand tout à coup, un garde surgit et nous barra le chemin.
« Halte !»
s'exclama-t-il d'une voix fêlée. Nos chevaux se cabrèrent, inquiets. Nous tirâmes les rênes.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Burik d'un ton agacé. L'homme ne broncha pas.
« Vous pouvez passer, messire, » dit-il à Burik avec respect. « Mais j'ai ordre d'interdire au bâtard de sortir de Castelcerf. »
« Le bâtard !»
Jamais je n'avais vu Burik aussi outragé.
« On dit Fitz Chevalerie, fils du prince Chevalerie !»
Le garde resta bouche bée.
« Répète ce que je viens de dire !»
rugit Burik, en dégainant son épée. Il paraissait brusquement 2 fois plus grand que nature, et il irradiait la fureur.
« Fitz Chevalerie, fils du prince Chevalerie !»
bafouilla l'homme. Il prit une inspiration, la gorge serrée.
« Mais je peux bien l'appeler comme je veux, j'ai des ordres. Il n'a pas le droit de sortir. »
« Il y a moins d'une heure. » « J'ai entendu notre reine nous ordonner de l'accompagner ou de la rattraper le plus vite possible. Prétends-tu que tes ordres soient supérieurs aux siens ?»
L'homme parut indécis.
« Un instant, messire. »
Et il rentra dans le corps de garde. Burik eut un grognement méprisant.
« Celui qui l'a formé n'a pas à s'enorgueillir. Il compte sur notre sens de l'honneur pour nous empêcher de continuer notre chemin. »
Ou alors. « Il te connaît, » fis-je. Burik me lança un regard assassin. Un moment plus tard, le capitaine de la garde apparut, et il nous fit un sourire complice.
« Bonne route, et bonne chance à Finbay !»
Burik lui adressa un signe à mi-chemin entre le salut et l'adieu, et nous talonnâmes nos montures. Je laissai Burick donner le rythme. Il faisait noir, mais après la descente, la route était droite et unie, et un petit clair de lune nous éclairait. Burick devait être plus impatient que je ne l'avais jamais vu, car il lança les chevaux au petit galop et maintint l'allure jusqu'à ce que nous apercevions la garde de la reine, loin devant nous. Il ralentit alors que nous rattrapions la queue de l'escorte. Je vis les gardes se retourner, et l'un d'eux nous salua de la main.
« Un peu d'exercice. Ça fait du bien à une jument en début de grossesse. »
Il me regarda dans la pénombre.
« Je n'en sais pas autant sur les femmes. »
Termina-t-il, hésitant. J'eus un sourire ironique.
« Parce que tu crois que j'en sais plus que toi ?»
Je secouai la tête et repris mon sérieux. « Non, je n'en sais rien. Certaines femmes évitent de monter quand elles sont enceintes, d'autres non. » À mon avis, Ketriken ne ferait rien qui puisse mettre en danger l'enfant de vérité. Et puis, elle court moins de risques avec nous qu'en restant au château avec Royal. Burick ne répondit pas, mais je sentis son assentiment. Ce ne fut d'ailleurs pas tout ce que je sentis.
« Enfin, nous recommençons à chasser ensemble !»«
Chut !» répliquai-je, avec un coup d'œil oblique à Burick. Je m'efforçais de penser le plus bas possible.
« Nous allons loin. »
« Seras-tu capable de tenir l'allure des chevaux ?»«
Sur une courte distance, ils peuvent me distancer, mais rien ne peut trotter plus longtemps qu'un loup. »
Burick se raidit légèrement dans sa selle. Je savais qu'Œil de Nuit trottinait le long de la route, dans les ombres. Quel plaisir d'être au dehors en sa compagnie. Quel plaisir d'être au dehors tout simplement. Je ne me réjouissais pas de l'attaque contre Finbay, non, mais au moins... J'avais l'occasion d'agir, même si je ne devais que nettoyer ce que les pirates auraient laissé debout. Je lançai un coup d'œil à Burick. Il exhalait la colère. « Burick, fis-je d'un ton hésitant.
« C'est un loup, n'est-ce pas ?»
répondit Burick à contre-cœur dans l'obscurité. Il regardait droit devant lui, et je reconnaissais le pli de ses lèvres.
« Tu le sais bien !»
Un grand sourire, la langue qui pend. Burick tressaillit comme si on lui avait enfoncé un doigt dans les côtes. « C'est Œil de Nuit », avouai-je à mi-voix, en rendant l'image de son nom en termes humains. L'angoisse me rongeait. Burick avait perçu sa présence. Il savait. Inutile de nier désormais. Pourtant, je ressentais aussi un soupçon de soulagement, mortellement las que j'étais des mensonges dont je m'entourais. Burick ne dit rien, ne me regarda pas. Je ne l'ai pas voulu, c'est arrivé, c'est tout. C'était une explication, pas une excuse.
Je ne lui ai pas laissé le choix.
Œil de Nuit prenait le silence de Burick de façon très enjouée. Je posais la main sur l'encolure de suie et puisais du réconfort dans la chaleur et la vie que j'y sentis battre. J'attendis une réaction de Burick, mais rien ne vint. Je sais que tu ne m'approuveras jamais, repris-je à mi-voix. Mais je n'y peux rien. C'est ce que je suis.
C'est ce que nous sommes tous.
Œil de Nuit se mit à minauder.
Allons, cœur de la meute, dis-moi quelque chose. N'allons-nous pas bien chasser ensemble?
Cœur de la meute? Répétai-je, étonné.
Il sait que c'est son nom. C'est ainsi qu'il l'appelait tous ses chiens qui le vénéraient quand il donnait de la voix pendant la chasse. Cœur de la meute. Ici. Ici, le gibier est ici, et je l'ai trouvé pour toi, pour toi. Voilà ce qu'ils clapissaient tous, et ce que chacun voulait être le premier à lui annoncer. Mais maintenant, ils sont tous partis, emportés au loin. Ils n'ont pas aimé le quitter. Ils savaient qu'ils les entendaient, même s'ils refusaient de répondre. Tu ne les as jamais entendus?
Je ne devais pas vouloir les écouter, sans doute.
Dommage. Pourquoi se vouloir sourd ou muet?
Tu es obligé de faire ça en ma présence,
fit Burick d'un ton guindé. Pardon. Il était vraiment fâché. Œil de Nuit eut un petit rire rosse, mais je fis celui qui n'y prêtait pas attention. Burick refusait toujours de me regarder. Au bout d'un moment, il mit Rousseau au petit galop pour rattraper la garde de Ketriken. J'hésitais. Puis me maintint à sa hauteur. Raidement, il rendit compte à Kétriken de tout ce qu'il avait fait avant de quitter Castelcerf, et elle hocha gravement la tête, comme si elle était accoutumée d'entendre ce genre de rapport. D'un signe, elle nous accorda l'honneur de chevaucher à sa gauche, tandis que le capitaine de sa garde, une certaine Gantelet, se plaçait à sa droite. Avant que l'aube nous surprît, le reste des soldats montés de Castelcerf nous rattrapa, et Gantelet ralentit l'allure pour permettre à leurs chevaux essoufflés de reprendre haleine. Mais une fois parvenus à un cours d'eau, et les bêtes désaltérées, nous repartîmes à un rythme soutenu. Burick ne m'avait pas dit un mot. Plusieurs années auparavant, je m'étais rendu à Finbay en tant que membre de la suite de Vérité. Le voyage avait duré 5 jours, mais nous nous déplacions avec des chariots et des litières, des jongleurs, des musiciens et des valets. Aujourd'hui, nous étions à cheval, en compagnie de soldats aguerris, et nous n'étions pas obligés de suivre la large route côtière. Seul le temps ne favorisait pas notre progression. Vers le milieu de la matinée du premier jour, une tempête d'hiver s'abattit sur nous, nous rendant le trajet pénible. Non seulement à cause de l'inconfort physique, mais aussi parce que nous savions que le vent violent allait ralentir nos navires. Chaque fois que notre chemin nous menait au surplomb de l'océan, je cherchais des voiles à l'horizon, mais n'en voyais aucune. La cadence imposée par Gantelet était rude, mais pas excessive, ni pour les chevaux, ni pour les cavaliers. Les haltes étaient rares, mais le capitaine variait le rythme de notre déplacement, et veillait à ce qu'aucun animal ne manquât d'eau. Durant les arrêts, on distribuait du grain aux chevaux, et du pain dur et du poisson séché pour ceux qui les montaient. Si quelqu'un remarqua qu'un loup nous suivait, il n'en fit pas mention. 2 journées entières plus tard, l'aube naissante et une trouée dans les nuages nous permirent de découvrir la vaste vallée fluviale qui menait à Finbay. Gardebay était le château de Finbay, où résidaient le duc Kelvar et Dame Grasse, et c'était le cœur du duché de Ripon. La tour de guet se dressait sur une falaise sableuse au-dessus de la ville. Le château, lui, avait été bâti sur un terrain quasiment plat, mais fortifié d'une succession de levées de terre et de fossés. On m'avait dit un jour qu'aucun ennemi n'avait réussi à franchir la deuxième enceinte. Ce n'était plus vrai. Nous fîmes halte et contemplâmes un paysage de destruction. Les 5 navires rouges étaient toujours échoués sur la plage. La flotte de Finbay, surtout composée de petits bateaux de pêche, n'était plus qu'une masse d'épaves calcinées et à demi coulées qui s'étendaient le long de la côte. Les marées avaient joué avec elles depuis que les pirates les avaient ravagées. On pouvait suivre la progression des Outrédiens dans la ville aux maisons noircies et fumantes, tels les jalons d'une épidémie. Gantelet se dressa sur ses étriers, et tendant le doigt par-delà Finbay, nous fit un résumé de ses observations et de ce qu'elle savait de la ville. La baie est sablonneuse et peu profonde, si bien que, quand la marée se retire, elle se retire très loin. Ils ont hissé leur navire trop haut sur la plage. Si nous arrivons à les faire battre en retraite, il faut que ce soit à marée basse, au moment où leurs bateaux sont sur le sec. Ils se sont enfoncés dans la ville comme un couteau dans du beurre. À mon avis, la défense a dû être réduite parce qu'elle n'est pas défendable. Tout le monde s'est sans doute précipité au château dès qu'on a aperçu une quille rouge. Vu d'ici, on dirait que les Outriliens ont dépassé la 3e enceinte, mais à partir de là, Kelvar devrait pouvoir les tenir en respect presque indéfiniment. La 4e muraille est en pierre de taille. Il a fallu des années pour la construire. La forteresse dispose d'un bon puits et ses entrepôts devraient encore regorger de grains, sitôt dans l'hiver. Elle ne tombera pas, sauf traîtrise. Cantelet cessa de gesticuler et se rassit.
C'est absurde, cette attaque, reprit-elle d'un ton plus bas. Comment les pirates rouges espèrent-ils imposer un siège, surtout s'ils se font attaquer à leur tour par nos forces? Peut-être la réponse est-elle qu'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un vienne au secours de Gardebay, fit Kétriken, sans s'embarrasser de phrases. Ils ont toute la ville pour se fournir en vivres, et d'autres navires doivent peut-être les rejoindre.
Se tournant vers Kerf, elle lui fit signe de se placer à la hauteur de Gantelet.
Je n'ai aucune expérience des combats, dit-elle avec simplicité. À vous deux de dresser un plan de bataille. Je vous écoute, en tant que soldat. Que devons-nous faire?
Je vis Burick faire la grimace. Tant de franchise est admirable, mais pas toujours avisée de la part d'un chef. Gantelet et Kerf échangèrent un regard mutuellement évaluateur.
Marraine, Kerf a plus d'expérience que moi. J'accepterai son autorité, fit Gantelet à mi-voix.
Kerf baissa le nez, comme s'il avait un peu honte.
Burik a été l'homme liege de chevalerie. Il a connu bien davantage de combats que moi,
dit-il, les yeux sur l'encolure de sa jument. Il leva soudain le regard.
Je vous recommande de l'écouter, ma reine.
Sur le visage de Burik se lisaient les émotions qui luttaient en lui. L'espace d'un instant, ses traits s'éclairèrent. Puis, je vis l'hésitation le gagner.
Garde la meute. Pour toi, ils se battront bien.
Burik, prenez le commandement. Ils se battront avec cœur pour vous. Je frémis en entendant la reine Kedriken faire écho à la pensée d'œil de nuit, et je vis Burik frissonner. Il se redressa sur sa selle.
Pas question d'espérer les surprendre sur un terrain aussi plat, et les trois enceintes qu'ils ont déjà prises peuvent devenir pour eux des ouvrages défensifs. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons le temps pour nous, ma reine. Nous pouvons les bloquer là où ils sont. Ils n'ont pas de point d'eau. Si Gardebet résiste et que nous maintenions les Outréliens sur place, nous pouvons nous contenter d'attendre l'arrivée de nos navires. À ce moment-là, il sera temps de décider si nous lançons une attaque conjointe contre eux ou si nous les affamons, tout simplement.
« Cela me paraît avisé, » dit la reine.
« S'ils ne sont pas stupides, ils auront laissé au moins un petit groupe d'hommes auprès de leur bateau. Il faudra nous en occuper en premier lieu. Ensuite, nous devrons placer des gardes à nous pour surveiller ces navires, avec ordre de les détruire si jamais des Outréliens nous débordent et tentent de s'enfuir. Sinon, vous aurez de nouveaux bâtiments à ajouter à la flotte du roi servant Vérité. »
Cela aussi me semble judicieux. Visiblement, l'idée plaisait à Kedriken.
Ce plan n'est valable que si nous agissons rapidement. Ils ne vont pas tarder à s'apercevoir de notre présence, si ce n'est pas déjà fait, et ils jugeront la situation aussi clairement que nous. Il faut y aller vite, contenir ceux qui assiègent le château et défaire ceux qui gardent les navires.
Kerf et Gantelet approuvèrent de la tête. Burik se tourna vers eux.
J'ai besoin des archers pour clore le cercle autour du château. Le but est de les clouer sur place, pas d'engager un combat rapproché.
Empêchez-les de bouger, c'est tout. Ils vont essayer de s'enfuir par la brèche qu'ils ont faite dans les enceintes. Aussi, faites surveiller particulièrement ces points-là. Mais ne négligez pas le reste de l'enceinte extérieure. Et pour le moment, ne tentez pas de la franchir. Laissez-les s'affoler comme des crabes dans une marmite.
Les deux capitaines hochèrent brièvement la tête, et Burik poursuivit.
Pour les navires, il faut des épées. Attendez-vous à un combat acharné, parce qu'ils essaieront de défendre leur unique issue de secours. Envoyez aussi quelques archers moins doués que les autres et qu'ils préparent des flèches enflammées. Si vous n'arrivez à rien, qu'ils brûlent les bateaux. Mais, avant d'en venir là, tâchez de vous en emparer.
« Le Rurisque !»
s'exclama une voix à l'arrière-garde. Toutes les terres se tournèrent vers la mer, et en effet, le Rurisque était là, qui franchissait le promontoire nord de Finbay. Un instant plus tard, une deuxième voile apparut. Derrière nous, un grand cri de joie monta des cavaliers, mais au-delà de nos bateaux, mouillés en eau profonde, blancs comme le ventre d'un cadavre, et les voiles aussi gonflées, flottait le navire blanc. À la seconde où je l'aperçus, une épée de terreur m'effraya les entrailles.
« Le bateau blanc !»
m'exclamai-je dans un hoquet. Presque douloureux, un frisson d'effroi me parcourut.
« Quoi ?»
fit Burik surpris. C'était la première fois qu'il m'adressait la parole ce jour-là.
« Le bateau blanc !»
répétai-je, le doigt tendu.
« Quoi ? Où ça ? Là-bas ? C'est un banc de brouillard. Nos navires entrent dans le port de ce côté. »
Je regardais mieux. Il avait raison. C'était un banc de brume qui se dissipait au soleil du matin. Ma terreur s'évanouit comme un spectre au rire moqueur. Pourtant, l'air me parut soudain plus froid. Et le soleil qui avait brièvement écarté les nuages de tempête, un lumignon sans force. Une aura maléfique restait accrochée à la journée, comme une mauvaise odeur.
« Divisez vos forces et déployez-les sans attendre !»
ordonna Burik à mi-voix. « Nos navires ne doivent pas rencontrer de résistance en arrivant à terre. »
Allons, vite. Fitz, tu vas avec le groupe d'attaque contre les bateaux. Monte à bord du Rurisk quand il accostera et informe le capitaine de ce que nous avons décidé. Dès que ces navires auront été nettoyés, je veux que tous les combattants nous rejoignent pour contenir les Outréliens. Je regrette qu'il n'y ait pas moyen d'avertir le duc Kelvar de notre manœuvre, mais j'imagine qu'il ne tardera pas à voir ce qui s'y passe. Et maintenant, allons-y.
Il y eut d'abord une légère confusion parmi les soldats, puis Kerf et Gantelet se consultèrent, et en un temps étonnamment court, je me retrouvai derrière le capitaine de la garde en compagnie d'un contingent de guerriers. J'avais mon épée au côté, mais ma hache me manquait. Cette arme à laquelle je m'étais si bien habitué au cours de l'été. Rien ne se passa aussi simplement que prévu. Nous tombâmes sur des Outréliens au milieu des ruines de la ville, bien avant de parvenir à la plage. Ils retournaient à leur navire, encombrés de prisonniers attachés, lorsque nous attaquâmes. Certains tinrent leur position et se battirent, d'autres abandonnèrent leurs captifs et se sauvèrent devant nos chevaux, et bientôt nos troupes s'éparpillèrent parmi les maisons encore fumantes et les rues jonchées de débris de fines baies. Une partie d'entre nous prit le temps de couper les cordes des prisonniers et de les aider autant que faire se pouvait. Gantelet pesta contre ce retard, car les pirates qui s'étaient échappés allaient avertir les gardes des navires. Aussi scinda-t-elle notre groupe en deux, et laissa-t-elle une poignée de soldats pour venir en aide aux villageois malmenés. L'odeur des cadavres et de la pluie sur les poutres calcinées fit remonter en moi des souvenirs de forge si vivaces que je faillis en perdre mes moyens. Il y avait des corps partout, en bien plus grand nombre que nous ne nous y attendions. Quelque part, je sentis un loup qui rôdait au milieu des décombres, et j'y puisais du réconfort. Gantelet nous abreuva d'injures avec un art étonnant, puis organisa la troupe restée avec elle en forme de coin. Alors, nous fondîmes sur les bateaux pirates. L'un d'eux était en train de repartir avec la marée descendante. Nous n'y pouvions guère, mais nous arrivâmes juste à temps pour en empêcher un second d'en faire autant. Nous tuâmes les hommes à son bord avec une surprenante rapidité. Ils étaient peu nombreux, à peine le squelette d'une équipe de rameurs. Et nous parvînmes même à les abattre avant qu'ils aient le temps de passer par le fil de l'épée leurs captifs ligotés sur les bancs de nage. De là, nous suspectâmes que l'autre navire était semblablement chargé, et je songeais à part moi qu'il n'y avait sans doute pas l'intention d'engager le combat avec le Rurisk, ni aucun des autres navires qui convergeaient à présent vers lui. Mais les pirates rouges se dirigeaient vers le large avec leurs otages. Où allaient-ils? Retrouver un bateau fantôme que j'étais le seul à avoir aperçu? À la seule évocation du navire blanc, je sentis un frisson d'angoisse me parcourir, et une pression naître dans mon crâne, comme les prémices d'une migraine. Peut-être avaient-ils l'intention de jeter leurs prisonniers à l'eau ou de les forgiser, mais je n'étais pas en état d'y réfléchir pour l'instant. Je mis ces questions de côté pour les soumettre plus tard à Imbre. Chacun des trois navires qui restaient sur la plage était protégé par un contingent d'hommes, et ils se battirent avec tout l'acharnement prédit par Burick. Un des bâtiments fut incendié à cause de l'excès de zèle d'un de nos archers, mais les autres furent pris intacts. Le temps que le Rurisk s'échoue lui-même, les navires pirates étaient à nous, et j'eus alors le loisir de contempler la baie. Nul signe de bateau blanc. Peut-être n'avais-je vu en effet qu'un banc de brouillard. Derrière le Rurisk arrivait le Constance, et encore au-delà une flottille de pêcheurs, renforcée de deux ou trois navires marchands. La plupart durent mouiller l'ancre au large, dans l'eau peu profonde du port, mais leurs équipages furent rapidement transportés à terre. Les hommes des bâtiments de combat attendirent que leur capitaine eussent été mis au courant de la situation, mais ceux des navires de pêche et de commerce passèrent devant nous en courant et se dirigèrent droit sur le château assiégé. Les équipages de vaisseaux de guerre, mieux entraînés, les rattrapèrent bientôt, et quand nous parvînmes nous-mêmes aux enceintes extérieures de la forteresse, il s'était établi entre les deux groupes une certaine coopération, à défaut d'une réelle organisation. Les privations avaient affaibli les prisonniers que nous avions libérés, mais ils se remirent promptement et nous fournirent des renseignements indispensables sur les murailles externes. L'après-midi venu, notre siège des assiégeants était en place. Non sans difficulté, Burick réussit à convaincre les capitaines présents de maintenir un équipage en alerte sur un de nos bâtiments de combat au moins. Sa prévoyance se révéla payante le lendemain lorsque deux pirates rouges apparurent à la pointe nord de la baie. Le Rurisk les chassa, mais ils s'enfuirent de trop bon gré pour que nous en tirions satisfaction. Nous savions tous
qu'ils trouveraient tout simplement un village sans défense à piller plus loin sur la côte. Plusieurs bateaux de pêche se mirent tardivement à leur poursuite, bien qu'ils eussent peu de chances de rattraper les navires pirates propulsés à l'aviron. Le second jour, l'ennui et l'inconfort s'installèrent. Le temps était redevenu exécrable, le pain dur commençait à sentir le moisi, et le poisson séché n'était plus complètement sec. Afin de nous signaler qu'il nous avait vus et soutenir notre morale, le duc Kelvar avait fait ajouter le drapeau de serre à sa propre oriflamme qui flottait sur garde-baie. Toutefois, comme nous, il avait choisi la stratégie de la patience. Les Outriliens étaient bloqués, mais ils n'avaient tenté ni de traverser nos lignes, ni de se rapprocher de la forteresse. Tout n'était qu'attente et immobilité.
« Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, comme d'habitude. »
Burik s'était adressé à moi à mi-voix. La nuit était tombée. C'était la première fois depuis notre arrivée que nous disposions d'un moment ensemble. Il était assis sur une bûche, sa jambe blessée tendue devant lui. Moi, j'étais accroupi près du feu et j'essayais de me réchauffer les mains. Nous nous trouvions devant un abri temporaire dressé pour la reine, occupé à attiser un feu qui dégageait beaucoup de fumée. Burik aurait voulu qu'elle s'installe dans un des rares bâtiments encore debout de Finbay, mais elle avait refusé en exigeant de rester auprès de ses guerriers. Ses gardes allaient et venaient, entraient dans son abri et s'approchaient de son feu à leur gré. Leur familiarité faisait froncer le sourcil à Burik, mais en même temps, il approuvait le dévouement de Ketriken.
« Ton père était comme ça, lui aussi, »
remarqua-t-il brusquement, comme deux des gardes de la reine sortaient de son abri pour relever deux de leurs compagnes en sentinelle. « Il n'écoutait pas ce qu'on lui disait ? » fis-je étonné. Burik secoua la tête.
« Non, je parle de ces soldats qui allaient et venaient chez lui à toute heure. Je me suis toujours demandé où il avait trouvé un moment d'intimité pour te fabriquer. »
Je dus prendre l'air choqué car il rougit soudain.
« Excuse-moi, je suis fatigué. » Et ma jambe m'élance. Je ne pensais pas ce que j'ai dit.
Un sourire auquel je ne m'attendais pas me monta aux lèvres. « Ce n'est pas grave, » dis-je, et c'était vrai. Quand il avait découvert le poteau rose pour œil de nuit, j'avais redouté qu'il m'exclue à nouveau de sa vie. Alors, une plaisanterie, même un peu rêche, était la bienvenue. « Ainsi, je n'écoute pas ce qu'on me dit ?» demandai-je d'un ton humble. Il soupira.
Tu l'as dit toi-même. On est ce qu'on est. Et comme il l'a souligné, lui, parfois, on ne te laisse pas le choix. Tu te retrouves lié sans savoir comment.
Au loin, un chien hurla dans les ténèbres. Ce n'était pas vraiment un chien. Et Burik me lança un regard noir. Je ne sais pas m'en faire obéir, avouai-je.
Ni moi de toi. Pourquoi devrions-nous commander l'un à l'autre ?
Et il ne sait pas rester en dehors de conversations privées, observai-je.
Ni de quoi que ce soit d'autre de privé,
laissa tomber Burik. Il parlait du ton de celui qui sait. Je croyais que tu m'avais dit de ne jamais t'être servi du... Ne t'en être jamais servi. Même ici, je n'arrivais pas à prononcer le mot vif.
Et c'est vrai. Ça n'amène jamais rien de bon. Je vais te répéter en termes clairs. Ce que je t'ai déjà expliqué, ça te change, si tu t'y laisses aller, si tu le vis. Si tu n'arrives pas à t'en défaire, au moins ne le recherche pas, ne deviens pas...
Burik ! Nous sursautâmes. C'était Gantelé, sorti sans bruit de l'obscurité pour se planter de l'autre côté du feu. Qu'avait-elle entendu ?
Oui, quelque chose ne va pas.
Elle s'accroupit et tendit les mains devant le feu. Puis elle soupira.
« Je ne sais pas.
Comment poser la question ? Tu es au courant qu'elle est enceinte ?» Burik et moi échangeâmes un regard.
« Qui ça ? »
demanda-t-il effrontément. « Tu sais que j'ai deux enfants, et la plupart de ses gardes sont des femmes. Elle vomit tous les matins et elle boit de la tisane de feuilles de framboisier toute la journée. Elle a des hauts le cœur rien qu'à voir du poisson séché. Elle ne devrait pas être ici à mener cette vie. » Gantelé hocha la tête en direction de la tente.
« Ah, la femelle !
Tais-toi. »«
Elle ne nous a pas consultés, »
fit Burik, sans s'engager. « On a la situation bien en main. Il n'y a pas de raison qu'on ne la renvoie pas à Castelserre. répondit Cantelet d'un ton calme.
Je ne me vois pas en train de la renvoyer où que ce soit, dit Burick. En ce qui me concerne, c'est à elle seule de prendre cette décision.
Tu pourrais la lui suggérer?
Toi aussi. Tu es capitaine de sa garde. Tu es en droit de t'inquiéter pour elle.
Mais moi, je ne surveille pas sa porte toutes les nuits,
objecta Gantelet. Tu devrais peut-être,
répliqua Burick, qui tempéra sa réponse.
Maintenant que tu sais.
Le regard de Gantelet se perdit dans le feu. Peut-être, oui.
Bon.
La question maintenant, c'est de savoir qui va l'escorter jusqu'à Castelserre.
Toute sa garde personnelle, évidemment. Une reine ne voyage pas avec moi.
Quelque part au loin, des cris éclatèrent. Je me dressai d'un bond.
Ne bouge pas,
aboya Burick.
Attends les ordres. Ne fonce pas tête baissée avant de savoir ce qui se passe.
Un instant plus tard, sifflet de la garde de la reine s'arrêtait devant notre feu et s'adressait à Gantelet.
Une attaque sur deux côtés. Ils ont essayé de forcer le passage à la brèche en dessous de la tour sud, et certains ont réussi à passer à...
Une flèche la transperça et emporta le reste de son rapport. Des outriliens se jetèrent soudain sur nous, plus nombreux que je ne pouvais les compter, et tous convergèrent sur la tente de la reine.
« À la reine !»
m'écriai-je avec le mince soulagement d'entendre mon cri repris plus loin. Trois gardes sortirent précipitamment de la tente et se placèrent dos à ces fragiles murailles, tandis que Burick et moi, devant l'abri royal, faisions front à l'ennemi. Je m'aperçus que j'avais mon épée à la main, et du coin de l'œil, je vis la lumière des flammes courir le long de celle de Burick. Soudain, la reine apparut à l'entrée de sa tente.
« Ne restez pas ici à me protéger !»
s'exclama-t-elle.
« Allez au cœur des combats !»«
Il est ici, madame !»
grogna Burick, en s'avançant brusquement pour trancher le bras d'un homme qui s'était trop approché. Je me rappelle ces mots, et je revois Burick faisant ce pas en avant. Mais ce sont mes derniers souvenirs cohérents de cette soirée. Ensuite, ce ne fut plus que cris, sang, métal et feu. Des vagues d'émotions déferlaient sur moi, tandis que soldats et pirates bataillaient à mort. Très rapidement, quelqu'un mit le feu à la tente, et le brasier illumina les combats comme une scène de théâtre. Je me rappelle avoir vu Kétriken, sa robe relevée et nouée, qui se battait jambes découvertes et pieds nus sur la terre gelée. Elle maniait à deux mains son épée montagnarde, ridiculement longue, et sa grâce faisait du combat une danse de mort qui m'eût distrait en toute autre occasion. Il arrivait sans cesse de nouveaux outriliens. Un instant, j'eus la certitude d'entendre Vérité crier des ordres, mais je ne les compris pas. Œil de nuit apparaissait de ci, de là, toujours à la lisière de la lumière, masse de fourrure et de crocs qui jaillissait soudain, tranchait brusquement un tendon, ajoutait son poids à celui d'un pirate pour transformer sa ruée en trébuchement maladroit. À un moment où la situation se présentait mal, Burick et Gantelet combattirent dos à dos. Je faisais partie du cercle qui protégeait la reine, du moins le cruge, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle ferraillait à côté de moi. Dans le courant de la bataille, je laissai tomber mon épée pour ramasser la hache d'un pirate mort. Je retrouvai ma lame le lendemain sur le sol glacé, encroûtée de boue et de sang. Mais sur l'instant, je n'hésitais pas à échanger le cadeau de vérité contre une arme plus brutalement efficace. Tant que nous nous battions, seul le présent comptait. Quand enfin la fortune de la bataille changea, je me lançai sans réfléchir à la poursuite des ennemis éparpillés dans les ruines noircies et le relent d'incendie du village de Finbay. Là, de fait, Œil de Nuit et moi chassâmes très bien ensemble. Je me tins face à face avec ma dernière proie, hache contre hache, tandis qu'Œil de Nuit évitait en grondant les coups d'épée de la sienne, plus petite, et ne cessait de la mordre. Il l'acheva quelques secondes à peine avant que j'abatte mon adversaire. Ce massacre final fut empreint pour moi d'un bonheur violent et sauvage. J'ignorais où se trouvait la limite entre Œil de Nuit et moi. Je savais seulement que nous avions vaincu et que nous étions tous deux saufs. Nous nous désaltérâmes longuement au seau d'un puits communal, et je lavai le sang de mes mains et de mon visage, puis nous nous assîmes, le dos contre l'abri du puits, pour regarder le soleil se lever au-dessus de l'épaisse brume qui recouvrait le sol. Œil de Nuit était chaud contre moi, et nous ne pensions même pas. Je dus m'assoupir un moment car je fus réveillé en sursaut par sa fuite soudaine. Je levai les yeux pour chercher ce qu'il avait effarouché, et je vis les yeux effrayés d'une jeune habitante de Finbay posée sur moi. Le soleil levant allumait des reflets roux dans ses cheveux. Elle avait un seau à la main.
Je me mis debout en souriant et brandis ma hache pour la saluer, mais elle tourna les talons et se sauva comme un lapin terrifié parmi les décombres.
Je m'étirai, puis me dirigeai au milieu des lambeaux de brouillard, vers l'endroit où s'était dressée la tente royale. Tout en marchant, je me remémorais les images de ma chasse de la nuit passée. Les souvenirs étaient trop nets, trop rouges et trop noirs, et je les repoussais au fond de mon esprit. Était-ce de cela que Burick cherchait à m'avertir? Malgré la clarté, il demeurait difficile de comprendre tout ce qui s'était passé. La terre autour des restes noircis de l'abri de la reine avait été battue en boue. C'est là que le gros du combat avait fait rage. Quelques cadavres avaient été entassés d'un côté, d'autres gisaient encore là où ils étaient tombés. J'évitais de poser les yeux sur eux. Tuer, sous le coup de la peur et de la colère, est une chose. C'en est une autre de contempler son ouvrage à la lumière froide et grise du petit matin. On pouvait concevoir que les Outriliens aient voulu franchir nos lignes. Ils avaient une chance de parvenir jusqu'à leur navire et d'en récupérer un ou deux. Il était moins compréhensible qu'ils aient concentré leur attaque sur la tente de la reine. Une fois sortis des enceintes, pourquoi n'avaient-ils pas saisi l'occasion de foncer vers la promesse de salut qu'offrait la plage?
Peut-être, fit Burick, en serrant les dents tandis que je palpais le gonflement violacé de sa jambe. Peut-être n'espérait-il pas s'en tirer. C'est typiquement outrilien, ça, de décider de mourir et d'essayer de faire autant de dégâts que possible avant d'y passer. Alors, ils ont attaqué ici en espérant tuer notre reine.
J'avais découvert Burick en train d'arpenter le champ de bataille en claudiquant. Il ne m'avait pas dit qu'il cherchait mon cadavre, mais son soulagement en me voyant l'avait suffisamment démontré.
Comment savait-il que c'était la reine qui était dans la tente?
Fis-je en réfléchissant tout haut.
Nous n'avions hissé aucune bannière, nous n'avions lancé aucune sommation. Comment ont-ils su qu'elle était là?
Tiens, ça y est, ça va mieux. Je vérifiais que le pansement en serrait bien la jambe.
La plaie est sèche, elle est propre, et on dirait que le bandage atténue la douleur. Je crois qu'on ne peut pas espérer mieux. J'ai l'impression que, chaque fois que j'en demanderai un peu trop à cette jambe, elle va se mettre à enfler et à me brûler.
Il en parlait sans plus de passion que de la mauvaise patte d'un cheval.
Enfin, la cicatrice ne s'est pas rouverte au moins. Ils ont foncé tout droit sur la tente de la reine, non?
Comme des abeilles sur du miel, répondis-je avec lassitude. La reine est à garde-baie?
Évidemment, comme tout le monde. Tu aurais dû les entendre, les acclamations, quand les portes se sont ouvertes devant nous. La reine Kétriken est entrée, ses jupes toujours nouées sur le côté, son épée encore dégoulinante de sang, et le duc Kelvar s'est mis à genoux pour lui baiser la main. Mais Dame Grâce l'a regardée, et elle a dit « Oh, madame, je vais vous faire préparer un bain sur l'instant. »
Ah, voilà la matière dont on fait les épopées, fis-je, et nous éclatâmes de rire. Mais tout le monde n'est pas au château. Je viens de voir une jeune fille qui venait tirer de l'eau, en bas, dans les ruines.
Bah, au château, les réjouissances battent leur plein. Mais il y en a sûrement qui n'ont pas le cœur à la fête. Gantelet s'est trompé. Les habitants de Finbay n'ont pas baissé les bras devant les pirates rouges, et beaucoup sont morts avant la retraite au château.
À propos, tu ne trouves rien de curieux dans tout cela?
Que des gens veuillent se défendre?
Non, c'est... Tu n'as pas l'impression qu'il y avait trop d'outriliens? Plus que n'en peuvent transporter 5 navires?
Burick resta un instant songeur, puis il jeta un coup d'œil au corps épars derrière lui. Peut-être avait-il d'autres navires qui les ont déposés avant de partir en patrouille.
Ce n'est pas leur façon de faire.
Je soupçonne l'existence d'un navire plus grand que les autres, capable d'embarquer une troupe considérable. Et où serait-il?
Disparu maintenant.
Je pense l'avoir aperçu qui s'éloignait dans un banc de brouillard.
Nous nous tûmes. Burick me montra où il avait attaché Rousseau et Suy, et nous prîmes le chemin de garde-baie. Les portes du château étaient grandes ouvertes, encombrées d'un mélange de soldats de Castelserre et d'habitants de garde-baie. Ils nous accueillirent d'un cri de bienvenue et nous offrirent des coupes débordantes d'hydromel avant même que nous eussions mis pied à terre.
De jeunes garçons nous supplièrent de les laisser emmener nos chevaux, et à ma grande surprise, Burik les y autorisa. Dans la grande salle, une fête battait son plein qui aurait ridiculisé n'importe lesquelles des réjouissances de Royal. Tout garde-baie nous était ouvert. Des brocs et des cuvettes remplies d'eau chaude parfumée avaient été disposées dans la grande salle afin que nous puissions nous rafraîchir, et les tables croulaient sous les plats où ne figurait ni le pain dur, ni le poisson salé. Nous demeurâmes 3 jours à garde-baie. Durant cette période, nous enterrâmes nos morts et brûlâmes les cadavres des Outriliens. Les soldats de Castelserre et les gardes de la reine se joignirent aux habitants de Finbay pour réparer les fortifications du château et remettre en état ce qui restait de bourg de Finbay. Après quelques enquêtes discrètes, j'appris que le feu d'alarme de la tour de guet avait été allumé dès qu'on avait repéré les navires. Mais l'éteindre avait été l'un des premiers buts des pirates. « Et le membre du clan qui s'y trouvait ?» demandai-je alors. Kelvar m'avait adressé un regard surpris. Ronce avait été rappelé des semaines auparavant pour une mission essentielle dans l'intérieur. Kelvar croyait savoir qu'il avait été envoyé à guet de négoce. Le lendemain de la bataille, des renforts arrivèrent de Baie du Sud. Ils n'avaient pas vu le feu d'alarme, mais les messagers partis à dos de cheval étaient parvenus jusqu'à eux. J'étais présent quand Ketriken félicita le duc Kelvar de la prévoyance qu'il avait eue d'établir un relais de chevaux pour ce genre de message. Elle fit aussi transmettre ses remerciements au duc Shemshai de Orfon pour sa rapide réaction. Elle proposa enfin qu'ils se partagent les navires capturés, afin que, plutôt que d'attendre la venue des bateaux de combat, ils puissent dépêcher les leurs pour leur défense mutuelle. C'était un présent somptueux, qui fut accueilli par un silence abasourdi. Une fois remis, le duc Kelvar se leva, ému à la santé de la reine et de l'héritier à naître des loin voyants, car la rumeur était rapidement devenue de notoriété publique. La reine Ketriken rosit joliment et tourna une réponse courtoise au duc. Ces brèves journées de triomphe nous mirent à tous du baume au cœur. Nous nous étions battus, et bien battus. Finbay allait être rebâti, et les Outriliens n'avaient pas pris pied dans garde-baie. Pendant une courte période, nous crûmes possible de nous débarrasser d'eux définitivement. Avant même notre départ, on chantait déjà l'épopée de la reine qui, les jupes retroussées, s'était hardiment dressée devant les pirates rouges, et de l'enfant dans son sein, qui était guerrier avant de naître. Cette image de la reine qui n'avait pas hésité à risquer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de l'héritier du trône, resterait gravée dans les mémoires. D'abord, le duc Brondi de Béarn et maintenant Kelvar de Ripon, me dis-je. Ketriken était doué pour s'attacher la fidélité des duchés. Pour ma part, je vécus un petit épisode qui à la fois me réchauffa le cœur et me glaça le sang. Dame Grâce m'aperçut dans la grande salle, me reconnut et vint me parler. « Ainsi, me dit-elle après m'avoir salué, mon garçon de chenil des cuisines a du sang royal. Rien d'étonnant à ce que vous m'ayez si bien conseillé il y a quelques années. » Elle était aujourd'hui parfaitement à l'aise dans son personnage de dame et de duchesse. Son chien de Manchon l'accompagnait toujours partout, mais il se déplaçait maintenant par ses propres moyens, et cette constatation me réjouit presque autant que l'aisance de sa maîtresse à porter son titre et l'affection qu'elle manifestait à son duc. « Nous avons tous deux beaucoup changé, Dame Grâce, » répondis-je, et elle accepta le compliment sous-entendu. La dernière fois que je l'avais vue, j'étais en déplacement à Ripon avec Vérité. Elle était alors beaucoup moins à l'aise dans son rôle de duchesse. Je l'avais rencontrée dans les cuisines où son chien était en train de s'étouffer avec une arête de poisson. J'en avais profité pour la convaincre que l'argent du duc serait mieux employé à bâtir des tours de guet qu'à lui acheter des bijoux. À l'époque, elle n'était duchesse que depuis peu. À présent, on eût dit qu'elle portait ce titre depuis toujours. « Vous ne vous occupez donc plus des chiens ?» me demanda-t-elle avec un sourire ironique.
« Des chiens non, mais des loups !»
fit quelqu'un. Je me retournai pour voir qui avait parlé, mais la salle était bondée et nul ne semblait nous regarder. Je haussai les épaules comme si la remarque n'avait pas d'importance. Dame Grâce ne paraissait pas l'avoir entendue. Elle voulut me faire don d'un signe de sa reconnaissance avant mon départ. J'en souris encore. Une petite épingle en forme d'arête.
Je l'ai fait faire pour ne pas oublier. J'aimerais qu'elle soit à vous, maintenant. »
Elle ne portait plus guère de bijoux, me dit-elle. Elle me donna l'épingle sur un balcon, un soir où les lumières des tours de guet du duc Kelvar scintillaient comme des diamants contre le ciel obscur.